Il s'appelle Sacha Tsala, il est président de la Société Suisse d'Histoire. On parle chute du mur avec vous, Xavier, c'est à vous.
Sacha Tsala, bonjour.
Bonjour.
Quand le mur est tombé est un recueil de 63 documents diplomatiques. Il y a ce compte-rendu de la conversation téléphonique entre le chancelier allemand Helmut Kohl et le président américain George Bush, le père, hein, le 10 novembre. Il y a de l'enthousiasme, l'ambiance est à la liesse, mais le chef d'État allemand perçoit déjà les difficultés à venir. C'est incroyable de pouvoir écouter cette conversation quelque part 30 ans plus tard.
Oui, naturellement, ce sont toujours des documents très immédiats. En plus, qu'on voit aussi la côté humaine à la fin de la conversation. Kohl dit à Bush de dire à sa femme de pas acheter des cadeaux de Noël parce qu'il va envoyer des saucisses. Donc, on voit vraiment le rapport direct. Et je pense que c'est un élément important des relations internationales, cette ligne directe qu'il y avait entre Kohl et les Américains qui a permis après de trouver assez vitement une solution pour la réunification allemande.
C'est effectivement très amical et on voit qu'Helmut Kohl décrit par contre la fuite des compétences de l'Est vers l'Ouest. Il dit qu'il pourrait y avoir une catastrophe pour l'Allemagne de l'Est. Les médecins, les juristes, les spécialistes quittent le pays qui ne pourront pas être remplacés. Dès les premières heures, on sent une grande inquiétude.
Oui, naturellement, ça c'est, disons, le problème principal depuis 1961 qu'on a construit le mur, donc la fuite des cerveaux. On doit voir que pendant tout l'été 1989, il y a eu des grands process de migration. Mmh. Et c'était naturellement les jeunes, c'était ceux qui avaient les qualifications les meilleures, qui essayaient de démarrer une nouvelle vie à l'Occident. La même mécanique qu'il y a en 1956 avec l'Hongrois, par exemple.
Si on traverse ces 63 documents, on se rend compte que la plupart laissent transparaître une grande surprise. C'est allé très vite. Il y a eu vraiment un moment d'accélération de l'histoire.
Oui, ça je crois que c'est le point fondamental de cette étude. On voit vraiment que tous les acteurs, ils sont très très surpris. Et il y a un document suisse qui est très intéressant. Il y a les documents. Il y a des diplomates de la République démocratique allemande qui viennent à Berne ici pour informer ce qui est en train de se mettre en lieu. Le document, il est écrit en allemand. Mm-hmm. Et après, il est écrit en français. Les informations qu'on vient de recevoir sont déjà dépassées par les événements.
Ça va plus vite que la diplomatie. En tout cas, il y a pas seulement la surprise, il y a aussi la crainte du changement. On peut lire, par exemple, dans certains documents israéliens ou polonais, une grande peur de cette chute du mur et évidemment de cette réunification qui s'annonce.
Je crois que ça, c'est aussi un des points intéressants de ce livre, de présenter des documents de 11 pays et pas seulement de grandes puissances. Donc, surtout avec l'exemple d'Israël, on voit les peurs de l'État juif envers une Allemagne réunifiée. Aussi, il ne faut pas oublier que la République démocratique allemande avait des mauvaises relations avec Israël et surtout qu'il fallait encore faire une déclaration formelle sur la question de l'Holocauste, ce que la RDA va faire. Et pour la Pologne, c'est aussi très intéressant. C'est un pays du pacte de Varsovie et donc du bloc communiste. Et il se pose toutes sortes d'autres questions. Et c'est intéressant de voir qu'à un certain moment, on a presque peur que la Pologne se mette entre les deux Allemagnes. L'Allemagne communiste avec laquelle elle doit avoir une relation de loyauté, vu la question des blocs, et les intérêts économiques et la question des frontières avec l'Allemagne fédérale.
Monsieur Tsala, on va parler aussi de la Suisse. Il y a cette incroyable lettre d'adieu de l'ambassadeur de Suisse en Allemagne de l'Est. C'est un tout petit peu plus tard, hein, c'est le 2 octobre 1990, juste avant la réunification. Cette lettre, elle est empreinte d'une certaine mélancolie et il écrit notamment sous forme de questions « Tous les Allemands trouveront-ils dans ce nouvel État une patrie, sinon un foyer ?» C'est quasiment visionnaire.
Absolument, c'est l'ambassadeur suisse Franz Bierer qui a été quelques années dans l'Allemagne communiste et qui a cette position un peu mélancolique, probablement parce qu'il est un peu embêté par le triomphalisme du libéralisme et de cette une position assez triomphale. Et donc, dans cette analyse, il fait aussi une analyse des positions des gens qui vont pas gagner ou qui sont les perdants de cette réunification. Et je pense qu'il voit avec grande clarté des développements et des grandes difficultés pour chercher de mettre ensemble ces deux pièces de l'Allemagne. Il parle aussi de mezzogiornalisierung, c'est-à-dire il prend un peu la métaphore du mezzogiorno italien et pour éviter qu'il y ait deux côtés qui sont développés de manière différente.
Le Blick en parle aujourd'hui justement de cette lettre. Franz Birer a été très critiqué dans les milieux diplomatiques suisses. Il est quasiment soupçonné d'être un crypto-communiste.
Oui, je dois vous dire, le jour où je vois un ambassadeur suisse communiste, je crois que je n'ai pas compris des choses.
Vous le dites avec beaucoup d'ironie, oui, effectivement.
Absolument. Il faut comprendre que Birer, il venait d'un pays africain qui était beaucoup plus répressif. Et dans cette dernière phase de l'Allemagne communiste, il y a eu quand même des petits moments d'ouverture. Et cela, sûrement, il y a carence de critique, mais il met l'accent aussi sur des points qui, effectivement, aujourd'hui, 30 ans plus tard, sont encore des problèmes. Donc, le fait que le défi de chercher de mettre ensemble ces deux Allemagnes était beaucoup plus compliqué de ce que l'optimisme, surtout de Kohl, qui était le moteur puissant. Mmh. On a même dit que c'était un peu un projet privé de Kohl, parce qu'il a fait beaucoup de choses sans avoir l'appui politique, la légitimation. Donc c'était vraiment une grande accélération des événements, et cela a permis, après en 1990, de terminer de manière formelle et pratique aussi la guerre froide. Mais naturellement, ça prend plus qu'une génération de chercher de remettre ensemble ces deux pièces d'Allemagne.
Monsieur Tzala, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a eu il y a 30 ans de grosses erreurs d'appréciation des événements de la part des diplomates et des politiques?
Non, je ne crois pas. Disons, des grosses erreurs dans le sens, ce que tout le monde, et aussi surtout de côté suisse, pensait que c'était pas possible, c'était que l'Union soviétique allait accepter que la nouvelle Allemagne serait intégrée dans l'OTAN. Mmh. Et là, il y a même des analyses où on pense que la nouvelle Allemagne pourrait être un pays neutre, ce que pour la Suisse est pas possible, vu la puissance de l'Allemagne. Et je pense que tout le monde, on peut sous-estimer l'état financier, la situation très difficile qu'il y avait dans le bloc communiste et surtout aussi dans l'Union soviétique. Et donc, à un moment donné, Gorbatchev a permis cette intégration dans l'OTAN aussi pour des questions purement financières.
Ouais. Et 30 ans plus tard, aujourd'hui en 2019, est-ce que vous trouvez, vous qui avez un regard plus aiguisé que la moyenne sur ce qui s'est passé en coulisses, est-ce que vous trouvez pertinente la description qui est faite au grand public de cet événement?
Alors, effectivement, il y a encore aujourd'hui un certain triomphalisme. Si on se rappelle à l'époque, même du point de vue intellectuel, il y avait un philosophe américain comme Francis Fukuyama qui avait déclaré la fin de l'histoire.
La fin de l'histoire, oui, qui avait fait beaucoup de bruit, oui, effectivement.
Donc, c'était l'espèce du triomphe de la démocratie libérale et donc la fin de l'histoire. Et là, naturellement, les derniers 30 ans, ils nous ont donné une vision assez différente. Et aussi la naissance d'autres conflits, donc notamment aussi tous les conflits nationaux qui vont se dégager après la fin, après la chute du mur. On peut dire que toutes ces questions qui ont touché aussi de très près l'Europe étaient bloquées pendant la guerre froide aussi grâce au mur. Une fois que le mur est tombé, il y a eu l'ouverture de toute cette question qui nous touche encore aujourd'hui. Donc l'Europe aujourd'hui, elle est encore concernée avec ces questions.
On voit la grande actualité de ces documents, Monsieur Tzala. Merci infiniment.